la table du Seigneur. Parler de la table du Seigneur, on veut mettre les choses au point clair et afin que nous puissions le faire correctement. Donc je vous invite à prendre vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Donc l'apôtre Paul dans cette épître, eh bien au fur et à mesure qu'il progresse, il est en train de traiter une question après l'autre, un problème après l'autre, hein. Et donc il arrive finalement à la table du Seigneur, le repas du Seigneur, et là aussi il y a certaines choses à mettre au point. Dans l'église de Corinthe, eh bien ils avaient des agapes, c'est-à-dire des repas d'amour, et où ils se retrouvaient, et puis ils prenaient un repas ensemble, et on a comme l'impression que vers la fin du repas, quelque part, ou pendant le repas, eh bien, ils célébraient la scène. Et un peu comme Jésus l'a fait, hein, dans la chambre haute, hein, c'était le repas, le pascal, et puis ensuite, c'était la scène. Alors, apparemment, ils faisaient ça, et c'était très bien, et l'apôtre Paul ne reproche pas cela. Mais c'était la manière dont c'était fait, pas le fait de le célébrer, mais c'est la manière dont c'était célébré et l'attitude qu'il voyait chez les chrétiens. Et donc c'est surtout ça qui nous concerne et nous voulons revoir certaines choses. Donc le repas du Seigneur, c'était célébré. On appelle ça le repas du Seigneur, on peut appeler ça aussi, certains l'appellent l'Eucharistie. L'Eucharistie, bon, ça fait un peu catholique ça. Ben, le mot il est très bien, hein. Le mot il veut dire le repas de remerciement, hein. C'est tout ce que ça veut dire, hein. C'est le repas de remerciement. Et donc rien ne nous empêche d'avoir des repas de gratitude et où on remercie le Seigneur, donc ça c'est inclus. Et aussi c'est appelé la scène avec un C, ou bien la sainte scène aussi. L'expression repas du Seigneur, je le trouve ici dans ce passage, et donc c'est ce que je vais employer, hein, le repas du Seigneur. Donc le repas du Seigneur, c'est l'une des deux institutions que Jésus a donné à l'Église, hein, donc la célébration de la scène, et la seconde institution, c'est le baptême par immersion. Donc la première commémore son sacrifice sur la croix, et la deuxième, sa mort et sa résurrection. Et les deux, les 10 images sont complètes, et les deux représentent l'essentiel de l'œuvre salvatrice de Christ. Donc, comme je l'ai dit, nous allons lire le passage maintenant. Hein. Donc, je sais que vous êtes tous là, j'entends plus les pages tourner. Donc, au verset 17, donc 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17, il nous dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Donc, Paul, il ne remet pas en question la célébration de la scène, comme j'ai dit, mais c'est la manière dont cela se déroule. Il dit, il y a des choses qui ne vont pas, et en cela, je ne vous loue point. Il dit, là, je ne peux pas approuver. Hein, je ne suis pas avec vous, là. Et puis ensuite, nous voyons, et comme nous l'avons lu, après avoir disséqué la situation et le problème, eh bien, à la fin, il dit, c'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont morts. Il dit donc, c'est-à-dire, ça ne se faisait pas correctement, et il y a des conséquences. Il dit donc, je traite cette question parce que c'est sérieux, c'est très sérieux. Et ça doit être pris au sérieux. Et c'est un, parce qu'il y a un problème, parce que quelqu'un venant de l'extérieur qui regardait à leur rencontre, leur agape, ça fait joli, hein, c'est un repas d'amour, mais quelqu'un de l'extérieur qui regardait se disait, mais ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il a dit, je vois des divisions, il y en a un qui mange, et puis il y en a un qui reste là, qui les regarde manger, cette image de l'union, l'unité, de la communion n'est pas là. Et il dit, ça ne va pas. C'est-à-dire, la mécanique, vous l'avez, vous célébrez la scène. Mais l'atmosphère, l'attitude, vous ne l'avez pas. Et alors que, par excellence, la table du Seigneur doit justement refléter ce pourquoi Christ est mort, c'est-à-dire pour rendre possible cette communion entre nous et cette communion avec Dieu, il dit, mais ce n'est pas là. Et donc, il a dit, et Dieu prend cela au sérieux. Et donc, là, bien sûr, Dieu n'est pas glorifié, et puis finalement, ça crée des tensions entre frères et sœurs, c'est pas tout à fait ça, et ça ne plaît pas au Seigneur. Donc l'apôtre Paul soulève la chose, et si l'église de Corinthe a pu le faire, et si c'était des chrétiens, il n'y a pas de doute, c'était des chrétiens qui aimaient le Seigneur, mais vous savez, c'est parfois pas avec l'habitude, avec le rituel, même nous les évangéliques, on développe des petites traditions, des petits rituels, et on fait les choses toujours de la même manière, et finalement on oublie le pourquoi. Et on n'évalue pas le cœur. Alors que la vie chrétienne est par excellence quelque chose que l'on vit, pas quelque chose que l'on pratique. On le pratique parce qu'on le vit. Mais c'est une expression d'une vie. Et donc, là, l'apôtre Paul, je vois un aspect, il y a un aspect inspection. Et puis, c'est-à-dire qu'il y a celui de l'extérieur qui voit ce qui se passe, et qui trouve cela un témoignage qui n'est pas la gloire de Dieu. Il nous demande de faire une introspection, c'est de regarder l'attitude qui est dans notre cœur. Et ensuite, une fois que les choses se sont mises dans l'ordre, la table du Seigneur sera d'une inspiration. Donc, l'inspection. La première chose, c'est que la manière dont c'était célébré ici à Corinthe, eh bien, ça, comme je l'ai dit, ça reflétait une mauvaise image de l'Église. C'est une rencontre qui faisait ressortir les divergences. Des mauvaises motivations du cœur. Il y avait une ambiance qui n'était pas propice à la célébration de la table du Seigneur. C'était finalement, il a dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger la table du Seigneur, mais finalement vous vous réunissez pour autre chose. Normalement, c'est pour la table du Seigneur. Et donc, on fait tout notre possible pour faire ressortir le message de la table du Seigneur. Et alors, il dit, mais vous êtes en train de là, il y en a un qui arrive avec sa cantine et puis tout son repas, et puis il déballe et il étale sa nourriture, alors qu'il y en a un autre, c'est un esclave, il n'a pas le droit de prendre quelque chose à la cuisine, hein, il sort avec rien dans ses poches, et qui devait être là parmi les frères aussi, et lui, il ne pouvait pas manger. Il a dit, ça ne va pas. Et donc, là, il dit, écoutez, vous avez des maisons pour manger. Le repas du Seigneur, c'est pas un repas pour se rattraper. Ce n'est pas pour montrer aux autres. Hein, et nous trouvons ça aussi encore aujourd'hui, hein, un milieu évangélique qui étale leur bien, comme si c'était ça. Moi, je dois être un super chrétien parce que j'ai des biens matériels. Le Seigneur m'a béni, hein, donc je suis un bon chrétien et je voudrais que vous remarquiez. Et ça. Ça existe, et il y a un évangile de prospérité où certains mettent en valeur l'abondance et leur bénédiction. Et c'est le même problème qu'ici, hein. Il y avait un peu de ça ici. Et il ne dit surtout pas à la table du Seigneur. Et il dit, vous savez, il pose la question, mais c'est une déclaration, c'est une accusation même. Il dit... Au verset 22, il dit « N'avez-vous pas des maisons pour manger et boire ? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu ?» C'est-à-dire, finalement, vous donnez plus d'importance à vos désirs que la raison pour laquelle l'Église de Dieu est là et pourquoi elle se réunit. Et puis, vous faites honte à ceux qui n'ont rien. Et alors, ça ne doit pas être un sentiment. Les injustices du monde et ce qu'il y a dans le monde, et c'est la manière, on connaît. Mais quand on rentre dans l'Église et lorsque l'Église se retrouve, là tout ça, tout ce qui est issu, qui est le produit du péché dans le monde, et des attitudes, et l'égoïsme, et l'orgueil, l'amour du plaisir, tout ça, ça disparaît quand on rentre dans l'Église. Et c'est un endroit où on trouve un climat céleste, si on pouvait le dire. Hein, on trouve toute une autre attitude. Et nous devons vraiment préserver cela. Et c'est le témoignage le plus fort que nous pouvons avoir en tant qu'Église. Quelqu'un rentre, il arrive et dit ici, j'ai l'impression que j'ai quitté le monde pour retrouver quelque chose qui vient d'en haut. Où il y a l'influence d'en haut. Et on ne veut pas créer quelque chose d'artificiel, hein, la forme, ce n'est pas la peine, parce que vous savez, les gens qui rentrent du monde, ils connaissent l'artificiel, ils en ont vu assez. Ce qu'ils veulent, c'est du vrai. Et comme il a été souligné tout à l'heure, le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, nous donne cette capacité d'avoir le vrai amour, d'avoir cette vraie communion, et cette relation avec Dieu, une vraie, et c'est à nous de la vivre pleinement. Il dit donc, voilà, déjà, la forme, vous devez la changer, il y a les attitudes qui doivent être changées. Et puis après, il dit, au verset 23, il dit, j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il dit, je vous en avais déjà parlé, hein, quand Paul a travaillé dans Corinthe, il a dit, je vous ai enseigné cela, mais vous avez retenu la pratique, mais vous n'avez pas retenu l'esprit de la chose. Il dit, et j'ai reçu du Seigneur. Vous savez, je m'arrête là quelques instants. Il dit, j'ai reçu non pas d'un disciple, mais j'ai reçu du Seigneur. Paul était loin du Seigneur. C'était un ennemi du Seigneur quand Jésus a célébré la scène avec ses disciples dans la chambre haute. Il ne l'a jamais vu. Mais là, il dit, j'ai reçu du Seigneur. Il a dit, le Seigneur a donné une telle importance à la chose qu'il m'en a parlé personnellement. Je n'ai pas été voir ni Pierre, ni Jean, ni un autre, mais le Seigneur me l'a donné moi-même pour que je sache exactement, parce que c'est très, très important. Il dit, j'ai reçu du Seigneur. Et ce qu'il a reçu du Seigneur, hein, ça correspond exactement à ce que les apôtres et les disciples ont vécu et ont relaté dans les évangiles. Le fait que le Seigneur le lui ait donné met en valeur l'importance de cette institution. La table du Seigneur, c'est sérieux. Toute la vie chrétienne, c'est sérieux. Mais là, c'est quand même, on est en train de parler de la mort de Christ et du sang de Christ et tout cela, et on ne doit pas le prendre à la légère. Et ça ne doit pas juste un quelque chose où on dit, bon, on va faire ça, hein, tous les chrétiens font ça, ils ont, plus, d'une manière ou d'une autre, ils le font, on le fait, et puis voilà, hein, ça ne peut pas faire de mal et ça ne peut faire que du bien. Bon, apparemment, ici, ça a fait du mal, parce qu'ils ne le prenaient pas correctement. Et donc, il rappelle que cette table, c'est une commémoration, hein, de ce que Christ a fait, le fait qu'il ait donné sa vie sur la croix, son sang a coulé, et que c'est un rappel. Et surtout, il nous rappelle cela, c'est parce qu'il ne voulait pas, hein, il ne voulait pas qu'on le transforme en un autel sur lequel on sacrifie le corps de Christ. Parce que, juste rapidement, lorsque dans certaines églises où ils ont une messe, où ils prient sur le pain et le vin devient réellement le sang de Christ, et le pain, selon eux, devient réellement le corps de Christ, on reconstitue le corps de Christ, on le sacrifie sur l'autel, et puis on consomme. Et il dit non, c'est pas une reconstitution, c'est pas un nouveau sacrifice. Christ est mort une seule fois pour toutes et ça suffit largement. Mais seulement, je veux pas que vous oubliez que Christ est mort, hein, et qu'il veut pas que nous oublions à quel prix nous sommes sauvés. Vous savez, et je le souligne en passant, vous savez, quand vous lisez l'Apocalypse, qu'est-ce que Jean a vu ? Il a vu un agneau immolé. Imaginez, vous dites, ah, c'est pas beau dans le ciel. C'est déjà pas beau sur la terre. Mais c'est pas beau dans le ciel. Ah oui, mais ça, ce sera une chose. Peut-être la seule chose qui sera rappelée à notre mémoire dans la gloire. Une chose désagréable de la terre. C'est la mort de Christ. Et Christ, on le verra toujours avec les mains percées. Pour toujours. On n'oubliera jamais, ça en sera rappelé pour toujours, autant commencer maintenant, c'est pour ça qu'on célèbre la scène, autant commencer maintenant, se souvenir que c'est au prix de la mort de Christ que nous sommes sauvés. Et même lorsque nous serons dans la gloire, ce sera pas, il ne voudra pas qu'on pleure pour lui ou quelque chose, non, mais seulement n'oubliez pas. Simplement, n'oubliez pas que c'est parce que je suis mort pour vous que vous êtes là. Et c'est important pour cela. Et nous devons nous le souvenir et on doit nous le rappeler. Et c'est pour ça que quand il demande cette introspection, il dit, vous évaluez un peu la manière dont vous pratiquez la chose, mais regardez le cœur, ce qu'il y a dans votre cœur. Il dit, en parlant de la chose, eh bien, il insiste sur le sérieux de cette mort et sur les symboles qui représentent des vérités essentielles, hein, donc la coupe et puis le pain qui représentent le corps brisé de Christ. Mais ce qui est extraordinaire aussi, il dit, c'est qu'en faisant cela, il inaugure une nouvelle alliance. Il dit, et ceci est une nouvelle alliance. Si Jésus emploie le mot une nouvelle alliance, hein, et si vous avez un peu d'expérience avec l'Ancien Testament, vous savez ce que le poids d'une alliance avec Dieu. Abraham a eu une alliance avec Dieu. Moïse, dans le Sinaï, il y a eu une alliance avec Dieu. Et là, Jésus dit, il y a une nouvelle alliance. Et donc, cette alliance, c'est la base de la relation entre l'homme et Dieu. C'était l'alliance d'Abraham avec Dieu, c'était la base de sa relation avec Dieu. Quand Moïse a eu une alliance sur le mont Sinaï avec le peuple, eh bien, c'était la base d'une manière de fonctionner. Et puis après, Jésus dit, ceci est une nouvelle alliance. Je ne vais pas m'étaler sur l'idée de l'alliance, mais juste pour vous dire que s'il dit qu'une nouvelle, c'est une nouvelle alliance, ça veut dire qu'elle remplace une ancienne. Elle remplace la précédente. Si elle est nouvelle, c'est pas l'ancienne restaurée, c'est une nouvelle. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 8, on va juste lire quelques versets. Hébreux chapitre 8. C'est l'étude des alliances dans la Bible, c'est toute une étude, une longue étude, mais rapidement, là, dans Hébreux chapitre 8, je lis au verset 7. Donc Hébreux 8, verset 7, il dit « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Donc, s'il y a une nouvelle alliance, ce n'est pas que la première était mauvaise, mais celle-là, c'est une amélioration. Hein? Et donc, celle qui est remplacée, c'est celle du Sinaï. Hein? C'est la précédente, c'est celle qui est avec Moïse au Sinaï. Regardez ce qu'il dit au verset 6. Il dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur, parlant de Christ, d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Une alliance plus excellente qui repose sur de meilleures promesses. Donc, elle est nouvelle, pas seulement parce qu'elle suit, mais aussi parce qu'elle est supérieure, meilleure. Plus excellente. Donc, regardez verset 13. Verset 13 dit, en disant une nouvelle alliance, il a déclaré l'ancienne, la première. Et ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Donc, c'est-à-dire que l'alliance sous Moïse, eh bien, elle est passée. La nouvelle alliance, en fait, ce n'est pas un rattrapage, ce n'est pas une amélioration ou une réinstitution de quelque chose d'ancien. Non, c'est complètement nouveau. Et donc, rapidement, pour vous dire, cela veut dire que l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas l'Israël d'aujourd'hui. Hein, ce n'est pas une nouvelle Israël. Israël... C'est Israël. Ce que Dieu a promis à Israël, ce que Dieu a promis à Abraham, c'est des engagements, il y a une alliance, elle est là. avec Israël, il y a des engagements. Il y aura, vous lisez dans l'Apocalypse, il y aura un moment de restauration. Même l'apôtre Paul en parle dans Romains, une restauration, un rétablissement. Ça, c'est, donc, c'est, mais la nouvelle alliance, c'est quelque chose, un nouveau régime sous lequel nous sommes appelés à vivre. Donc la table du Seigneur, c'est le symbole, le rappel que nous sommes sous un nouveau régime établi par Dieu, une nouvelle relation avec lui, une relation de communion. Au Mont Sinaï, le peuple a fui quand ils ont entendu la voix de Dieu. Mais à la table du Seigneur, on s'approche du Seigneur. C'est carrément autre chose. Hein? C'est pas le Dieu qui fait peur, qui tremble et puis qui... Mais c'est le Seigneur qui nous tend ses mains et qui nous parle. C'est la communion. Et donc, l'apôtre Paul dit, mais cette table du Seigneur, c'est très très important. Et il le souligne. Hébreux chapitre 9, verset 15, j'avais juste un dernier verset que je voulais lire. Hébreux 9, verset 15, il dit « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort ait intervenu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. » Donc il dit, ce qui est extraordinaire, c'est que cette nouvelle alliance est établie, mais en elle, il y a un moyen d'expiation des péchés, et même des péchés de l'ancienne alliance. C'est-à-dire, quand Christ est mort sur la croix, il n'est pas mort uniquement pour les péchés de ceux qui sont sous la nouvelle alliance, donc depuis Jésus-Christ, mais il est mort pour les péchés de tous ceux de l'ancienne alliance aussi, et depuis la création du monde. Sa mort a couvert tout le monde, tous ceux qui veulent ce pardon. Et donc, c'est quand Jésus a dit, mais ceci, c'est une nouvelle alliance, c'est pas juste une belle parole, c'est quelque chose de sérieux. Et dans lequel, et quand il y a une alliance, c'est les deux s'engagent. Hein. C'est comme quand vous signez un contrat de loyer, ça engage le propriétaire, comme ça engage le locataire. Les deux s'engagent et les deux ont des contraintes qu'ils doivent respecter. Et donc, quand il y a cette nouvelle alliance, on rentre dedans, on dit moi je veux les péchés pardonnés, comme ça je serai au ciel et tout ça, mais après, bon, hein, je signe rien, hein, je rentre seulement comme ça. Non, quand on signe le sang de Christ et quand je prends part à ce symbole, c'est comme un rappel que j'ai signé un contrat et je suis engagé. Il y a, le respect de la table du Seigneur est indispensable. Il dit, je reviens à 1 Corinthiens 11, verset 27, il dit, c'est pourquoi. Il vient de rappeler ce qui s'est passé dans la chambre haute. Il vient de nous dire, hein, depuis le verset 23 jusqu'à 26, il nous parle de comment les choses se sont passées. Le verset 27 dit, c'est pourquoi. Hein, donc, je déduis. Celui qui mangera le pain ou qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il y a deux mots qui apparaissent là. Il y a d'abord manger indignement, qu'est-ce que cela veut dire ? Et deuxièmement, manger sans discerner le corps du Seigneur. Il ne faut pas aller chercher des gros en long mystère, il faut chercher longtemps. Manger indignement, ce serait, c'est prendre part à une chose auquel on ne doit pas prendre part. C'est pas pour moi. Donc prendre part alors que c'est pas pour moi. Bien sûr, là, tout de suite, ça va exclure tous ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur dans leur cœur, qui n'ont jamais cru. Ils n'ont jamais placé foi dans la croix, la mort de Christ sur la croix, parce que il dit comment vous pouvez commémorer une chose dans laquelle vous n'avez pas participé. Hein, ça, vous n'êtes jamais passé par là. Comment est-ce que vous pouvez vous souvenir de la chose, hein, donc déjà, c'est indignement là. On verra plus après. Et ensuite, il dit sans discerner le corps de Christ. Ça, ce serait prendre la chose. Sans se souvenir du sens des symboles, du sens réel des symboles, et ce serait aussi sans méditer sur l'acte hein, qu'il représente. C'est-à-dire, c'est je prends la chose, oui, ça passe, je vois la coupe qui passe, je prends, je vois le pain, je prends, puis je continue, et voilà, c'est fait, et c'est très bien, je suis un bon petit chrétien. Non. Il dit celui qui le prend, mais sans discerner, sans méditer. Vous savez, c'est comme celui qui dit, bon, à la Toussaint, il dit, moi, je vais aller à la tombe de ma mère. Il passe devant la tombe, et puis il prend le coup de balai, il nettoie, il arrose, et il met une fleur, et puis il s'en va. Et puis sans jamais penser à sa mère. Donc, au vu de tout le monde, il a fait son devoir, mais en réalité, il n'a rien fait. En fait, il aurait mieux fait de ne pas y aller. Parce que c'est un mensonge, il fait croire à tout le monde qu'il pense à sa mère, alors qu'il ne pense pas du tout. Eh bien, la table du Seigneur, c'est la même chose. Quand je viens, je prends part à la table du Seigneur, et je ne fais que les gestes, mais sans du tout penser à ce qui est arrivé, eh bien, je suis en train de prendre indignement. Il dit, il vaut mieux pas le prendre. Parce que tu es en train de dire une chose qui n'est pas vraie. Dans ton cœur, tu n'y penses même pas. Tu n'es pas en train de commémorer, tu es en train de faire ce que font les chrétiens, de copier les autres. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important. Et c'est, bon, c'est un peu pour ça qu'ici, quand on le célébrera, ce sera une fois par mois. Pas parce que ceux qui le font toutes les semaines ont tort, ni parce que ceux qui le font tous les trois mois ont tort, ni parce que ceux qui le font une fois par an ont tort. La Bible ne nous dit pas exactement combien de fois le faire. Personnellement, c'est pour ça que c'est mon choix. Si on le fait trop souvent, ça devient trop un rituel. Si on ne le fait pas assez souvent, on oublie entre-temps. Donc, bon, on essaie de trouver un équilibre. Donc, j'ai opté pour le une fois par mois, mais ceux qui le font toutes les semaines, ceux qui le font deux fois par mois, c'est très bien. Tout le monde est biblique, hein. Mais seulement, je dis que quand une chose se fait trop souvent, ça devient un automatisme, et puis on le fait rapidement, on l'insère comme ça entre deux champs, et puis on va vite. Alors, ça me gêne énormément. Voilà, donc maintenant, qui donc peut participer à la table du Seigneur, hein, il dit prendre la table indignement. Eh bien, je l'ai déjà dit, hein, déjà. C'est celui qui a déjà reçu Jésus-Christ dans son cœur, celui qui est déjà né de nouveau, qui un jour il a compris le message de la croix, il a compris pourquoi Christ est mort, et il a compris que Christ est mort pour lui et pour son péché, et qui a demandé à Dieu de le pardonner. Et laissez-moi le dire, hein, si vous ne l'avez pas fait encore, et ce n'est pas une chose que vous avez traité entre vous et Dieu concernant la mort de Christ sur la croix, faites-le. Parce que c'est pas parce que vous êtes ici que vous êtes chrétien, c'est parce que on est né de nouveau, on est né par l'Esprit de Dieu, parce que on a compris la croix, on a demandé, on a dit Seigneur Dieu, je veux que tu pardonnes mon péché, je suis un pécheur, pardonne-moi mon péché, et je sais que tu peux le faire parce que Christ est mort pour moi, et je veux dorénavant vivre cette vie nouvelle qui s'appelle la vie éternelle. Donc, déjà, pour être digne de prendre la table du Seigneur, il faut déjà être enfant de Dieu. Hein? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deuxièmement, eh bien, je dirais celui qui a été baptisé par immersion après avoir reçu le Seigneur. Je sais que dans certaines églises, à partir du moment qu'on est enfant de Dieu, on peut prendre part à la table du Seigneur sans être baptisé, à partir du moment qu'on est sauvé. Et c'est très bien, je ne le juge pas. Seulement, c'est une préférence chez moi, en tous les cas, que la personne soit baptisée. Pas parce que le baptême apporte quoi que ce soit au salut. Le salut, c'est par la foi et rien. Hein, le baptême n'ajoute rien à la foi. Mais le baptême est une déclaration publique de cette foi. Alors je dis, je trouve un peu normal qu'une personne qui est vraiment sauvée, eh bien, qu'elle ait cette opportunité de déclarer publiquement sa foi avant de prendre part à la table du Seigneur. Parce que les gens vont le voir prendre part et dire, mais bon, pourquoi il prend part ? Et vous savez, vous-même, hein, de nos jours, les gens qui disent « je crois en Jésus hein, », ils sont nombreux, hein, mais ils ne sont pas tous vraiment des enfants de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » que lui reconnaît. Donc, il dit « si vous voulez reconnaître un arbre, ben reconnaissez-le à son fruit, pas à ses feuilles. Hein. » Donc, et puis troisièmement, eh bien, il faudrait que ce soit quelqu'un qui se vive en communion avec le Seigneur, puisque la table représente la communion. Il faudrait qu'il soit en communion avec le Seigneur, pas seulement sauvé, mais qu'il soit en communion avec le Seigneur. Et vous savez que la présence de péché dans notre vie, c'est pas c'est le fait de vivre dans certains péchés, hein, eh bien, rompt cette communion. On ne peut pas vivre dans la désobéissance et être en communion avec le Seigneur. C'est surtout la désobéissance délibérée. Et donc, regardez avec moi dans 1 Jean, le premier épître de Jean. Pour comprendre ce que veut dire être en communion avec le Seigneur, on n'est pas en communion avec le Seigneur parce qu'on participe à la table du Seigneur. On est en communion avec le Seigneur et parce qu'on est en communion avec lui, on vient à la table. Hein. Vous ne vous mettez pas à table. Vous savez, vous avez déjà vu dans les cafés, hein, vous l'avez vu, et deux personnes se sont donné rendez-vous, se sont rencontrées au café et ils ont tous les deux, il y en a un qui a un café, l'autre qui a son cappuccino, mais chacun est au téléphone avec quelqu'un d'ailleurs. « Ah oui, je suis avec une amie ici, tout ça. Ben »« Oui, mais vous avez une table, vous êtes présent, mais vous n'êtes pas en communion. Ouais, » chacun a ses pensées avec quelqu'un d'autre. La table du Seigneur, ce n'est pas comme ça. Hein, on ne vient pas avec le téléphone. On vient et on se concentre sur lui. Hein, je vous ai déjà dit la semaine dernière, ma femme, elle insiste, quand elle me parle, il faut que je la regarde. Et pas en train de penser à autre chose et regarder l'internet en même temps et puis regarder Facebook pendant qu'elle me parle. Non, non, ça passe pas. Et ça, c'est une juste jalousie. Je partage pas. Il y a des choses que je partage pas avec quelqu'un d'autre. Et le Seigneur, il est appelé Dieu jaloux. Hein. Il dit non, quand tu me parles, tu parles, tu penses qu'à moi. Sinon, pas ailleurs. Et la table, c'est une table, la table elle-même n'apporte rien, c'est un endroit, un rendez-vous avec le Seigneur. Vous avez trouvé 1 Jean, regardez le verset 7. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, c'est-à-dire nous marchons dans la vérité, hein, nous marchons dans sa présence, dans l'obéissance. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et puis, chose, c'est vrai qu'il n'y a aucun d'entre nous qui ne péchons jamais des actes, des accidents dans la vie. Et il dit, le sang est là pour purifier. Et il l'a mis au présent. C'est-à-dire, c'est une chose qui est continuelle. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie constamment de péché. Mais si délibérément je choisis de vivre dans le péché, alors là, je suis plus dans la lumière. Il dit, verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Regardez verset 6. Il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Il dit, c'est pas possible de marcher toute la semaine dans les ténèbres, et puis après tout d'un coup on arrive et dit, Seigneur, si, je t'aime beaucoup. Hein. Il dit, tu te moques de qui? peut-être on peut se moquer des autres chrétiens, on peut leur faire croire qu'on est le chrétien le plus spirituel, mais vous savez, on ne trompe pas Dieu. Et quand on vient à la table du Seigneur, vous savez, quand vous mettez à table avec quelqu'un qui sait tout sur vous, ce n'est pas la peine de raconter des histoires et de faire semblant. L'hypocrisie, ça n'a pas de place. Quand c'est quelqu'un qui sait tout sur moi, quand c'est quelqu'un qui ne sait rien sur moi, je peux faire semblant d'être un peu mieux que ce que je suis. Mais quand c'est quelqu'un qui sait tout sur moi, et à qui, il faut être honnête, la table du Seigneur, on rencontre quelqu'un qui sait tout sur moi. Bon, d'accord, il m'a pardonné, donc il ne me le reproche pas. Donc ce n'est pas une table de jugement. C'est une table de communion. Il dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 16, il dit, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ?» Donc là, cette table, c'est une communion avec Christ, au corps de Christ. C'est sérieux. Donc on a dit qu'il faut qu'il soit enfant de Dieu. Deuxièmement, qu'il suggère de préférence qu'il soit baptisé. C'est pas indispensable d'après la parole, mais pour la pratique, pour les raisons pratiques, je vois ça comme ça. Il est essentiel qu'il soit en communion avec le Seigneur. Et puis troisièmement, qui sont en communion avec les frères dans la foi. Parce que c'est une table, on n'est pas tout seul avec le Seigneur. Si les autres aussi se mettent à cette table. Et on ne peut pas se mettre et faire semblant avec le Seigneur. « Seigneur, je te parle, mais bon, lui, tu sais, moi, j'aime Dieu. » Il dit, « Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas. » Il dit, « Commence par ton frère. Là, on saura que tu l'as vrai amour. » Vous savez, c'est facile d'aimer Dieu. Il ne m'a jamais fait de tort. Mais aimer son frère, c'est un peu plus difficile. Parce que on s'est tous fait du tort. Il dit, commence par aimer ton frère. Quand tu es en communion avec ton frère. Il nous dit même dans le sermon sur la montagne, il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Il dit d'abord, règle les choses avec ton frère, règle les choses avec madame, ce qui s'est passé à la maison, règle avec les enfants, règle avec le voisin, règle avec l'autre frère, règle les choses, vous vous pardonnez mutuellement, et ensuite vous pouvez venir devant le Seigneur, vous savez que tout est en règle, il n'y a rien de caché. Vous savez, malheureusement, il faut l'admettre, mais dans les églises, tout le monde ne s'aime pas comme il devrait. Et je ne vais pas vous faire croire qu'ici, tout est parfait non plus. Mais vous savez, mais nous devons tendre vers cela. Nous devons le rechercher et pas dire, bah, c'est comme ça, personne n'est parfait. Si avec personne n'est parfait, ma femme ne ferait pas les repas qu'elle fait. Et ça, elle s'applique à faire certains plats. Pourquoi ? Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle veut présenter quelque chose digne de son amour. Alors, l'apôtre Paul dit, et sa recommandation, il a dit, pour que ça se passe bien, il vaut mieux que chacun se juge soi-même. Parce que d'abord... les autres ne savent pas tout sur moi, mais moi, je sais tout sur moi. Que chacun se juge soi-même. Il a dit, et si vous vous jugez vous-même, personne ne vous jugera. C'est vous voyez pour vous-même, votre vie. Et je reviens à 1 Corinthiens 11, verset 28. Il dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. s'éprouver soi-même. Et puis, je le suggère dans la pratique, eh bien, si vraiment je me trouve, j'arrive à l'église et à la table du Seigneur. Et puis moi, bon, je ne dis pas, ne venez pas parce que vous êtes pas, votre cœur n'est pas droit. Hein, on vient quand même, le Seigneur il reçoit. L'église, c'est surtout pour des pécheurs. Hein. Ici, surtout celle-ci. Celle-ci, c'est pour des pécheurs, hein, pas pour les gens qui sont très bien. Les justes, ben, ils vont se trouver ailleurs. Mais la question, c'est, mais quand je m'approche de la table du Seigneur, si les choses ne sont pas réglées, eh bien, la chose, c'est de régler les choses, ou bien de prendre cette résolution, de les régler rapidement, pour ne pas se priver de la table du Seigneur. Mais si je ne suis pas en mesure de le faire, je ne dois pas me présenter, parce que j'ai trop de respect pour la table du Seigneur. Il dit de s'abstenir et dire, Seigneur, bon, ces derniers temps, je me suis laissé aller, je n'ai ni lu la Bible, je n'ai prié, je n'ai rien fait, je suis fâché contre quelqu'un, ça ne va pas, je suis pas en état. Mais je viens, et le Seigneur dit, viens, il nous reçoit. Mais Seigneur, je ne peux pas m'asseoir à la table, mais je veux être là et je veux entendre parler, entendre ta voix quand même. Mais c'est très bien. Mais Seigneur, je ne peux pas me mettre à la table, je veux régler ça. Et pendant que les autres prennent part à la table, ben je suis en train de prier, dire Seigneur, aide-moi à régler ce problème. Ce qu'on veut, c'est la restauration. Hein. C'est toujours, ça c'est le principe de la Bible, depuis toujours, c'est la restauration. Depuis que le péché est entré dans le monde, Jésus a tout de suite commencé à penser à comment il allait restaurer. Hein, il a fait une promesse à Ève. Et rapidement, donc il y a comprendre la situation, que c'est ce qui se passe. Après, il y a une introspection de chacun dans son cœur pour s'évaluer lui-même. Et ensuite, vous savez, il y a une inspiration qui nous vient, quelque chose qui élève nos pensées, parce que il y a une promesse qui accompagne la célébration de la table du Seigneur. Jésus a dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc il y a une promesse associée à cela. Et donc cette table, elle, même si elle est toute symbolique, mais elle contient une promesse qu'un jour, je m'assiérai avec le Seigneur dans la gloire. Et l'apôtre Paul dit, même ici, hein, dans le verset 26, il dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc il y a toujours, on parle de la mort, mais on part de son retour. Les deux pensées sont associées et entre-temps, eh bien, nous avons cette nouvelle alliance sous laquelle nous vivons pour lui. Et donc, associée à cette célébration de la scène, eh bien, il y a cette... Et ça fait du bien de réévaluer son cœur devant le Seigneur et rester à jour avec le Seigneur dans sa vie et sa marche quotidienne, et ensuite ensemble de remémorer le fait que Christ soit mort, mais il est ressuscité, il est à la droite du Père, il intercède pour nous, et un jour il reviendra pour nous prendre. Et si je crois vraiment qu'il va revenir pour nous prendre, eh bien il nous dit dans 1 Jean, il dit alors celui qui a ses pensées purifie son cœur. Hein, si je sais qu'il revient, eh bien, je me prépare. Je me rappelle une fois, il y a une dame qui... on avait invité elle, et son mari et elle. Hein, donc elle, on ne la connaissait pas, son mari. On lui dit, écoute, tu viens avec notre époux, tu viens pour un repas. Et on venait de terminer le club d'enfants. Donc la maison était, on avait quand même eu une quinzaine d'enfants là, puis la maison était un peu retournée, le meuble était déplacé, tout ça. Et la dame est arrivée un peu à l'avance avec son mari, et puis quand elle a vu l'état de la maison, elle s'est dit, est-ce qu'on s'est trompé de jour? Parce que, dans le sens, c'est, on n'a pas l'impression que vous nous attendiez. Vous savez, pourquoi? Parce que quand on attend quelqu'un, eh bien, normalement, se prépare. La maison doit le ressembler. Ma vie doit donner l'impression que j'attends le retour du Seigneur. Et c'est là notre vie chrétienne. Alors, je vous laisse avec ces pensées, comme je crois que ce sont les pensées du Seigneur, sans sacraliser la table du Seigneur, sans... C'est fait pour... C'est une table qui est ouverte, où tous sont invités, et en même temps, il ne faut pas la prendre indignement, ni sans être en état de la prendre. Hein. Et cela, c'est bien, ça nous pousse à purifier notre cœur, à chercher à vivre avec le Seigneur, en communion avec le Seigneur, et vivre dans la pureté. Et tout ça, c'est une bonne chose pour l'Église de Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, encore une fois, nous sommes reconnaissants à toi pour cette grâce que tu nous fais. C'est que c'est toi qui as payé tout le prix, c'est toi qui as mis en place la croix, c'est toi qui as été jusqu'à la croix, c'est toi qui as été jusqu'à la tombe, c'est toi qui es ressuscité. Tu as vaincu la mort et tu as expié le péché. Et maintenant, tu nous dresses une table et tu nous invites. Et c'est extraordinaire que des êtres humains, des anciens pécheurs, puissent s'approcher de toi et manger à une même table. C'est une grâce. Mais Seigneur, tout en sachant que tu es un Dieu qui reçoit, nous ne voulons pas oublier que tu es Dieu et que tu es trois fois saint. Et que l'on ne s'approche pas de toi n'importe comment, dans n'importe quel état. Mais on s'approche de toi avec respect et avec des cœurs purifiés par ton sang. Père, donne-nous d'avoir cette vie équilibrée devant toi. Nous ne voulons pas être légalistes et en même temps, nous ne voulons pas être du laisser à tout faire. Et donc, aide-nous à avoir cet équilibre dans cette relation avec toi. Père, aide-nous et que ton Église puisse s'établir et se donner de bonnes habitudes dès les commencements. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Mmh.